Alors, je sais que le culte est un peu plus long que d'habitude, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours six témoignages et six baptêmes. Mais je ne veux pas faire long aujourd'hui, mais une chose que nous aimons beaucoup dans notre Église, c'est d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et de la prêcher. Ça, c'est vraiment notre signature, en fait, sur notre logo. C'est la parole de Dieu, verset par verset, c'est ce que nous aimons. Et donc, aujourd'hui, je vous invite, si vous avez vos Bibles, d'aller à un récit absolument fascinant, l'histoire d'un homme qui, lui aussi, à une conversion fulgurante. Son nom s'appelle Zachée, peut-être avez-vous déjà entendu parler de lui, et on le trouve dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, et donc j'ai intitulé ce court message « L'homme qui avait tout, mais qui n'avait rien ». L'homme qui avait tout, mais qui n'avait rien. Et c'est vrai, en écoutant les témoignages, eh bien, ces personnes se disaient, bon, ils avaient une vie, peut-être, elles pensaient qu'elle était bien, mais à un moment donné, il y a une crise, à un moment donné, ils ont réalisé, Tawar, ma vie n'est pas tout ce que je pensais qu'elle devrait être. Et là, il y a une rencontre, toutes les circonstances sont différentes, mais une rencontre fulgurante avec le Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit ici avec ce personnage qui s'appelle Zachée. Je vais lire juste ces quelques versets pour nous plonger dans le contexte. Luc 19, verset 1. Je crois que les paroles vont s'afficher derrière moi aussi si vous voulez suivre avec. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant, le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, et il y a quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Le verset 10, clé, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdu. Alors cette histoire, elle est très intéressante. Regardez le verset 1, la situation historique. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Alors Jésus, déjà dans chapitre 18, 35, avait déjà guéri un aveugle. Et vous savez que Jésus a fait énormément de miracles. Il y en a en fait 35 qui sont répertoriés dans la parole de Dieu, mais il y en a beaucoup plus selon Jean 20 qu'il a fait. Là, donc, il a guéri un aveugle et il arrive dans la ville de Jéricho. Et Jéricho était une ville vraiment intéressante. Même avant le règne de 1, Jéricho était considéré comme un petit paradis avec ses milliers de palmiers et ses grands jardins de roses. J'ai eu l'occasion d'aller à Jéricho deux fois, en fait. Alors, c'est plus comme avant, parce qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des ruines avec une petite ville. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Et Hérode avait un grand palace d'hiver, construit aussi un théâtre, un hippodrome. Les rues étaient lignées de sycomores. Il y avait avec ces grandes feuilles qui donnaient beaucoup d'ombre dans la chaleur d'Israël. Et alors Jéricho était une ville intéressante parce que d'un point de vue commercial, la ville était au centre des croisements d'un système routier. Et qui passait à travers cette ville, c'était les routes qui passaient à Jérusalem, Damas, Tyr, Sidon, Césarée, Joppe et l'Égypte. Donc tout le monde passait, c'est un peu comme Genève quelque part, j'ai envie de dire, une ville hyper internationale, commerçante. Et du point de vue richesse, la ville était connue aussi dans le monde entier par ses forêts de palmiers et ses vergers de baumiers tout autour de la ville. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de précieux lié à cette ville. Alors, bien sûr, là où il y a de l'argent, il y a la possibilité d'impôts. Eh oui, d'impôts. Et donc, cette ville était très riche et donc les Romains qui avaient envahi la Palestine à l'époque se sont dit, ça, c'est un endroit super pour imposer les gens parce que tout le monde passe à travers la ville. Et alors, on apprend au verset 2, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc Jésus arrive et il va traverser Jéricho. Et alors on apprend qu'il y a cet homme, et qu'est-ce qu'on apprend de lui ? Premièrement, qu'il est riche. Il est vraiment riche. Apparemment, c'est ce que Luc, l'écrivain de l'évangile de Luc, veut qu'on sache parce qu'il commence avec ça. Il était vraiment riche. Je pense que pour cet homme, on le va voir dans quelques secondes, la richesse a toujours dû être un but dans sa vie, comme tant de personnes aujourd'hui. Ils veulent être riches parce qu'ils sont convaincus que s'ils sont riches, ils seront heureux. On sait qu'il avait une maison à Jéricho, verset 5. Et sans doute, on peut imaginer, s'il était riche, que sa maison était magnifique. Son nom était Zachée. C'est intéressant parce que le nom veut dire vertueux. Ce n'est pas exactement ce qu'il était avant sa conversion. Mais le plus important, c'est qu'on apprend au verset 2 qu'il était chef des publicains. Alors, c'est quoi un publicain ? Un publicain, c'est un percepteur d'impôts. Et non seulement il était percepteur d'impôts, il était le chef des percepteurs d'impôts. Alors, il faut comprendre le système d'impôts à Rome pour comprendre ce que veut dire cette description de l'homme. Les Romains prenaient chaque région indépendamment et estimaient la somme totale qu'ils voulaient, eux, recevoir comme revenu de cette région. Et puis, ils vendaient le pouvoir de percevoir les impôts à celui qui misait le plus haut. Tant que le percepteur donnait aux Romains le montant qu'il exigeait, le percepteur avait le droit, tenez-vous bien, de garder la différence pour lui. Donc, plus il pouvait extorquer des impôts des gens, plus il s'enrichissait. Et puisqu'il n'y avait pas d'Internet, pas de journaux, pas de télévision à l'école, il n'y avait aucune manière efficace de faire des annonces publiques qui atteignaient tout le monde pour savoir vraiment quels étaient les impôts pour une chose et une autre. Alors, le système avait encouragé de tels abus qu'il a été décontinué au temps du Nouveau Testament. Mais il y en avait encore beaucoup qui opéraient comme ça. Par exemple, il y avait des taxes de l'État. Les hommes, entre 14 et 65 ans, devaient payer des taxes. Les femmes, entre 12 et 65 ans, devaient payer des taxes. D'accord ? Ils payaient un pourcentage pour le privilège d'exister. 1/10 du grain récolté, 1/5 du vin et de l'huile fabriquée, 1% de la taxe sur le revenu. Les taxes des commerces pour utiliser les routes principales, pour les ports, les marchés, les chars. Les roues de tes chars aussi étaient taxées. Et les animaux qui tiraient tes chars. Le percepteur pouvait arrêter n'importe qui à n'importe comment et n'importe quand et lui faire payer une taxe comme il le voulait. Alors, imaginez, est-ce que vous croyez que ce gars avait beaucoup d'amis ? Non, il n'avait pas beaucoup d'amis. C'étaient les gens les plus haïs du peuple. Ils étaient classifiés dans le même groupe des bandits, des meurtriers, des voleurs, des prostituées, des païens. Les publicains étaient barrés, exclus de la société. Donc, Zachée était reconnu, très riche et super haï. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il était le chef des publicains. C'est lui qui contrôlait toute la région. Waouh ! En plus, on apprend qu'il était juif. Alors, arrêtez-vous un moment. Il récolte les impôts pour qui ? Les Romains, ils les récoltent des Juifs. Les Romains étaient les ennemis des Juifs. Est-ce que vous croyez que les Juifs étaient contents du fait que Zachée, un Juif, récoltait les impôts d'eux pour les Romains ? Ah, c'était le pire du pire du pire, là. Verset 8, on apprend qu'il était voleur. Verset 7, on apprend qu'il était considéré comme pêcheur. Et au verset 3, on apprend en plus qu'il était de petite taille. C'est un petit gars. Pas du tout comme Nathan, qui était grand, hein, d'accord. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, cet homme qui donnait l'impression d'avoir tout, entend que Jésus passe dans sa ville. Jésus est en rentrée dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Ben, il était curieux comme tout le monde, il avait entendu parler de ce Jésus, il avait fait plein de miracles, ce Jésus. Peut-être qu'il avait aussi entendu parler d'un des disciples de Jésus qui s'appelait Matthieu. Parce que vous vous rappelez que peut-être que Matthieu aussi avait été publicain et lui aussi avait été appelé par Jésus, lui a cédé sa vie à Jésus-Christ, lui avait tourné le dos à son péché et avait suivi Jésus-Christ. Alors je pense que tous les percepteurs d'impôts étaient « Waouh, qu'est-ce qui se passe là ? Là, il y a un truc. » Mais le verset 3 est intéressant. Il ne pouvait y parvenir, donc voir Jésus, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il voulait voir Jésus, il était curieux, mais il n'y arrivait pas à cause de deux raisons. Il y avait deux obstacles dans sa vie. Premièrement, la foule. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Des vieux, des jeunes, des grands, des petits, tout le monde. Écoutez, Jésus était connu. Tout le monde parlait de Jésus en Israël. Et donc, tout le monde voulait voir cette personne. Et vous savez, je trouve que c'est intéressant. Zachée dans une foule, peut-être quelqu'un aurait été tenté de lui flanquer un couteau dans le dos. Je pense que c'est un peu compliqué pour lui dans une foule. Mais en même temps, il devait se retirer de la foule pour pouvoir voir Jésus. Donc, c'est ce qu'il fait. Il était de petite taille. C'est intéressant le mot en grec. Peut-être que vous ne connaissez pas le grec, mais le mot là, il est vraiment intéressant. Petite taille, c'est le mot mikros. Microscopique. D'accord ? Le gars, il était vraiment petit, quoi. Il était vraiment petit. Alors, vous avez déjà été dans une foule, je ne sais pas, vous êtes aux Champs-Élysées pour le 14 juillet, vous êtes là derrière, je ne sais pas, des grands derrière, vous ne voyez rien. C'était lui. Il ne voyait absolument rien. Donc, il se dit, il faut que je fasse quelque chose, là. Donc, le verset 4 est intéressant. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors, on voit ce petit public, hein, hyper riche, que tout le monde détestait, en train de courir. Et il voit un arbre, un sycomore, et là, un homme, je ne sais pas, imaginez un banquier suisse, d'accord, complet, machin, sa cravate, grimper dans un arbre, au plein milieu de Genève, pour voir, je ne sais pas, quelqu'un de vraiment célèbre venir. Ce serait un petit peu bizarre. Ben, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il avait les plus beaux habits de toute la ville. Super propre, sentait bon, parfum à la totale, quoi, tu vois. Et là, il monte dans ce sycomore, il grimpe l'arbre. Moi, ce que je trouve ici, c'est intéressant, c'est ce qu'il ose faire pour voir Jésus. Vous savez, on est tous un peu pris par la foule, pris par la vie. Et pour faire un pas vers Jésus, des fois, ça coûte. Des fois, c'est se dire, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Et moi, je pense que pour Zachée, peut-être tout le monde se serait attendu qu'il parte de l'autre direction, mais pas la direction vers Jésus pour le voir. Et je pense qu'à un moment donné, chacun de nous, on arrive devant une situation où Jésus se présente, ou bien par un ami, ou par une église, ou peut-être ce matin, et peut-être on n'aime pas trop, mais peut-être que finalement on se dit, tiens, c'est quand même intéressant. Est-ce que j'ose faire un pas vers Jésus? Est-ce que j'ose faire un pas vers Jésus? Voilà ce que Zachée ose faire. Donc il court en avant, monte sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Allez voir là, c'est la crise cardiaque pour le gars. Il monte dans le sycomore, il est là, perché sur sa branche, parfait, la vue parfaite. Il est là, Jésus arrive, il y a les foules partout, il se dit, « Ouais, trop bien, la meilleure place à Jéricho, là. » Mais par contre, maintenant, ce qui se passe, il s'y attend, mais alors absolument pas. Jésus vient, on peut imaginer la poussière, les gens partout. Et Jésus, juste là, il s'arrête, juste devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux. Il regarde Zachée droit dans les yeux. Non, mets-toi à la place de Zachée, là. Jésus te regarde droit dans les yeux. À la trouille, quoi, je sais pas. Tu dis non. Il n'est pas en train de me regarder, moi. Il regarde. Ils ne se sont jamais rencontrés avant. Jamais. Regardez ce qu'il dit. Zachée. Mais comment est-ce qu'il savait son nom? Parce que Jésus est Dieu incarné. Jésus est omniscient. Il connaît le nom de tout le monde. Non seulement connaît-il le nom de Zachée, il connaît ton nom. Il connaît mon nom. En fait, la Bible nous dit qu'il nous a même créés. Il savait qu'il allait nous créer avant même la fondation du monde. Il sait tout sur toi, il sait tout sur moi, tout. On ne peut pas lui échapper. Le psaume 139 dit, tu peux aller n'importe où essayer d'échapper à Dieu, c'est impossible. Il te connaît, il te voit, il te transperce. Et voilà ce qu'il fait avec Zachée, il le transperce. Alors il lui dit, Zachée, puis ensuite il lui dit, hâte-toi de descendre. Il ne lui dit pas,
descends.
Il lui dit, grouille, dépêche-toi et descends. Zachée dit, oh, mais je rêve ou quoi? Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le truc le plus improbable possible ce jour-là. Jésus choisit le pire des pires à Jéricho et lui dit, je veux loger chez toi. Zachée n'y croit pas. Attends, Zachée sait très bien, parce qu'on le voit à la fin du texte, c'est un pêcheur, il a volé des gens à droite et à gauche, c'est un gars, mais il est vil quelque part. Jésus lui dit, non, je veux venir chez toi. Voyez-vous, c'est très important de le savoir, Jésus ne cherche pas des gens bien, des gens tout propres. Vous savez pourquoi il ne les cherche pas? Parce que ça n'existe pas. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire. Combien? Tous. Tout le monde a péché. Et Jésus veut venir chez les pécheurs pour leur pardonner. Zachée, alors est-ce qu'il est le plus grand pécheur que tous? La Bible nous dit que si on pêche une fois, on est coupable de péché. Il faut commettre combien de péchés pour être pécheur? Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Je ne vais pas vous demander de vous lever la main, d'accord? Mais moi, j'ai déjà volé un carambar, par exemple, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a volé quelque chose? Voleur. Ah, je suis voleur. Est-ce que vous avez déjà menti, juste une fois dans votre vie? Ok. Si vous avez menti, ça fait de vous quoi? Menteur. On vient de déterminer en 3 secondes que vous êtes voleur et menteur, déjà. C'est pas mal, non? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que aucun de nous est bon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Zachée, il est transpercé par les yeux de Jésus. Transpercé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Si ça montre que Zachée est vraiment attiré par le Seigneur, il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Moi, je pense que sa conversion a probablement eu lieu là. C'est-à-dire, waouh, s'il te plaît, Jésus, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu que tu bouleverses les vies, maintenant tu es en train de vouloir venir chez moi, ok. Il descend et il le reçoit chez lui. Il le reçoit chez lui. C'est incroyable. Dans sa maison, il veut venir demeurer dans sa maison. Et en fait, c'est exactement la même invitation. Il est en train de t'appeler par ton nom et il est en train de dire, tu sais quoi, j'aimerais venir habiter en toi, chez toi. J'aimerais être ton ami, j'aimerais être ton sauveur, j'aimerais être ton Seigneur. Comme les 6 baptisés, à un moment donné, toutes les circonstances étaient différentes, mais à un moment donné, tac, ils savaient que c'était le moment. Ils ont descendu, ils ont dit, ok, viens, ok, viens. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, c'est une invitation, une simple invitation. Et lui, il réagit avec joie. Moi, je pense qu'il réagit avec joie parce qu'il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il a tous ses ennemis autour de lui et il sait qu'il a besoin d'être pardonné. Alors, verset 7, voyons cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alors, la première critique, alors ça c'est intéressant, la première critique, elle est contre Jésus. Parce que les pharisiens voulaient le discréditer. Alors les gens disent, ouais, mais comment est-ce que Jésus peut aller chez un pécheur? Parce qu'ils n'ont pas compris, c'est le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'oublions pas, Jésus est venu pour les pécheurs, il est venu pour les gens qui sont pécheurs, il y en a combien qui sont pécheurs? Tous. Donc ils n'ont pas du tout compris le but de la venue de Jésus-Christ. Il est venu pour te pardonner si tu es pécheur. Question, est-ce que tu es pécheur? Réponse, oui. Donc, est-ce que tu as besoin d'être pardonné? Réponse, oui. Est-ce que tu veux être pardonné? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Zachée le voulait. Zachée le voulait. Et imaginez les critiques contre Zachée. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ben, la critique, c'était contre Zachée, toi, tu es un pécheur. Et alors, verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Et il est comme, il est nu, là. Il se tient devant le Seigneur. Seigneur, voici ma vie. Tu la connais, de A à Z. J'ai rien à cacher. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je rends le quadruple. Moi, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que Zachée a reçu Christ comme son Sauveur et son Seigneur quand il a accepté Jésus chez lui, quand il est descendu de l'arbre avec joie. Il a dit, oui, Seigneur, viens. Et le résultat, on le voit au verset 8, le résultat, qu'est-ce qui se passe? ici dans le résultat. C'est absolument incroyable. Il rectifie le mal qu'il avait fait. C'est ça la repentance. La repentance, c'est de dire, waouh, j'ai péché et le Seigneur me pardonne. Et alors, peut-être je dois aller demander pardon à quelqu'un, ou peut-être je dois aller rectifier quelque chose, que j'ai fait du mal à quelqu'un. C'est ça un chrétien. Et c'est ce qu'il fait. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Allez voir. S'il a fait tort à quelqu'un, et pour offrir spontanément quatre fois la somme, ça veut dire qu'il avait un cœur vraiment qui pesait lourd. Il savait très bien le mal qu'il avait fait. C'est beau, hein? Alors, est-ce qu'il s'est converti? Ben, regardez verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui aussi est un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham, c'est une manière de dire, il est spirituellement lié à Abraham, qui était le fondateur, si vous voulez, de la religion juive. Donc c'était un homme né de nouveau. Il a reçu Jésus-Christ, il est maintenant spirituellement lié authentiquement à Abraham. Et verset 10, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Les perdus. Donc moi, la question que je vous pose pour terminer ce matin, voici la déclaration de Jésus. Le fils de l'homme, c'est une manière de parler de Jésus. Il s'appelait, quand il parlait de son humanité, il se parlait comme fils de l'homme, car le fils de l'homme est venu. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Il le dit. Pour chercher et sauver les perdus. Alors quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui est pécheur, et qui va devoir mourir pour ses propres péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc je vais devoir moi-même payer devant un Dieu saint pour mes propres péchés. Jésus dit, tant, moi je suis Jésus, le Fils de Dieu, sans péché. Voici moi et mon péché. Jésus dit, moi je veux prendre ton péché, donc mon péché passe sur lui, lui meurt, il ressuscite, et moi je suis libéré de mon péché. Voilà pourquoi il est venu. Et il te dit, si tu ne me connais pas, je suis venu pour toi. Je connais ton nom, je connais ta vie, je connais ton péché, je connais tout sur toi. La question, est-ce que tu veux Jésus-Christ? Est-ce que tu veux être pardonné? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je te supplie de faire comme Zachée aujourd'hui. Alors, tu n'es pas dans un lieu sycomore, d'accord? Tu es ici dans un hôtel à Genève. Autre temps, autre époque, autre ville. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour. C'est peut-être le jour où Jésus t'appelle et te dit, waouh, j'ai entendu ces témoignages, je suis baptisé. Est-ce que c'est peut-être à mon tour maintenant? Est-ce que je suis prêt à dire, Jésus, viens, viens chez moi? Moi, c'est ce que je prie de tout cœur, que tu te repentes et que tu dis, Jésus-Christ, deviens maintenant mon Sauveur et mon Seigneur. Je vais prier pour vous. Peut-être il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui, comme Zachée, veut un changement de vie. Si c'est ton cas, moi je te demande simplement de prier authentiquement dans ton cœur, et tu dis, Jésus-Christ, je suis pécheur, et je veux être lavé, je veux être pardonné aujourd'hui. Et je vois ce que Jésus a fait dans la vie de Zachée. Et je vois ce que Jésus a fait dans la vie de ses baptisés. Donc Seigneur, je te demande de faire la même chose dans ma vie maintenant. Rentre maintenant. Pardonne-moi mon péché, Seigneur. Et accorde-moi la vie éternelle à cause de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et je te prie au nom de Jésus. Écoute, la Bible dit que si vraiment ton cœur crie et a crié de manière authentique à Jésus-Christ, eh bien, comme Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Si c'est ton cas, tu aimerais parler avec quelqu'un, viens me voir, ou viens voir David, ou Ruben, ou quelqu'un, vous le dites à quelqu'un. Ou peut-être un des baptisés, vous leur dites, écoute, je crois qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Jésus-Christ de, de me sauver. On aimerait vraiment vous aider, vous donner de la littérature et vous aider dans votre cheminement. Donc vraiment, vraiment, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je crois qu'on passe maintenant, j'ai oublié le programme. Il y a un cantique, alors voilà, écoutez, on va tous se lever, on arrive presque au buffet, d'accord, encore quelques minutes, on va se lever, je crois qu'on va encore chanter, et ensuite distribuer les certificats, et c'est la fin, d'accord. Donc levons-nous tous pour un dernier chant, merci.